Bonjour frères et sœurs. Comment allez-vous? C'est ça qui est bien pour nous chrétiens, c'est que même s'il n'y a pas le soleil dehors, on peut le vivre dans notre cœur. Amen. Le soleil de Jésus, se réjouir ensemble comme nous l'avons fait. C'est tellement bon, tellement précieux de se réjouir dans le Seigneur. Et puis, je crois aussi de se réjouir avec le Seigneur, n'est-il pas vrai? Parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Et je crois que Dieu aime aussi se réjouir avec son peuple. C'est particulièrement au milieu de son peuple que Dieu aime se réjouir. C'est vrai? Quand ça se passe bien en famille, où est-ce qu'on aime bien se réjouir généralement, plus particulièrement? C'est en famille, hein? Ou avec les amis. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Dieu ne prend pas plaisir à se réjouir dans sa famille? Amen. C'est important de réaliser ça. On fait beaucoup de choses, et c'est vrai, on fait plein de choses pour Dieu, on est là, on fait des choses, on le proclame, mais parfois, on ne réalise pas qu'il est réellement là. C'est important de prendre conscience de cette réalité, il est réellement là. On va lire une histoire, vous aimez les histoires ? Oui, tu aimes bien les histoires. T'es pas la seule à bien aimer les histoires. Surtout les histoires de la Bible, hein, c'est vrai, hein, surtout ça, parce qu'il y a des tristes histoires, mais la Bible est composée d'histoires. Globalement, ça s'appelle, c'est une bonne nouvelle, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors, la Bible ne nous cache pas la réalité des choses et la réalité de la vie n'est pas triste, n'est pas joyeuse toujours. Donc, il y a des choses qui sont tristes, qui sont terribles dans la parole de Dieu, parce que Dieu ne nous cache pas les choses. Mais pour autant, le message qui ressort de tout ça, c'est toujours un message d'espoir, toujours un message d'espérance, tout en restant dans la vérité. Luc 15, à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. » Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Jésus là utilise une forme d'écriture qu'on appelle, une forme de communication aussi, qu'on appelle la parabole. La parabole n'est pas à prendre au sens littéral du terme. Voyez, c'est pas forcément une véritable histoire. De la même manière, quand on parle du corbeau et du renard, c'est pas une vraie histoire. Vous avez vu déjà des corbeaux qui parlaient à des renards, vous ? Non. Mais c'est une forme imagée, un enseignement sous forme imagée qui sert de support pour transmettre une instruction et faire passer un message pour marquer les esprits et les consciences des auditeurs ou des lecteurs. Et c'est intéressant de savoir, parce qu'une parabole, ce n'est pas toujours évident à interpréter, à comprendre, dans le sens où c'est quand même assez imagé, c'est intéressant de savoir à qui ça s'adresse. Ça va nous donner déjà des explications, ça va nous éviter peut-être de partir dans toutes sortes de choses. Et le verset 2 nous disent à qui particulièrement ces versets s'adressent, en tous les cas, de qui il s'agit, globalement. Ce sont des types de personnages au travers desquels nous pouvons plus ou moins nous identifier aussi aujourd'hui. Les premiers sont les publicains, les deuxièmes sont les gens des mauvaises vies, les troisièmes sont les pharisiens et les scribes. Et nous allons commencer à ma droite, les publicains. Les publicains qu'on appelait également des péagers ou des collecteurs d'impôts. Il se trouve que là, Jésus est quand même face à un bel auditoire, très bel auditoire, puisque toutes sortes de gens étaient là, mais pas avec les mêmes intentions. Et c'est toujours pareil. C'est pas parce que les gens sont là, c'est pas parce que les gens vous écoutent, que pour autant les intentions sont les mêmes. Il y a toutes sortes d'intentions, c'est aussi la parabole des talents. Il est dit que les publicains, les gens de mauvaise vie, eux étaient là, tous, pour le racketter. Pour le frapper. Pour l'injurier. Non. Contrairement à ce que peut-être leur mode de vie pouvait laisser penser, eux, ils étaient là pour l'écouter. Ils étaient là pour l'écouter. Et je crois que c'est une bonne chose quand on est là pour écouter le Seigneur. Vous ne croyez pas ? D'ailleurs, c'est même la première des choses qu'on a à faire. Dieu ne nous demande pas tellement de choses, sinon déjà d'écouter. Parce que tout part de là. Et puis, notre catégorie de personnes, les scribes et les pharisiens, étaient aussi là. Et Jésus ne va pas les mettre dehors. Parce que le Seigneur ne met pas dehors. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais eux, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Est-ce qu'ils écoutaient, eux ? Est-ce qu'ils étaient venus pour écouter ? Voilà, c'est ce que le texte nous dit. Eux, ils étaient venus pour murmurer, critiquer. Qu'est-ce que murmurer ? Dire des mots doux à son voisin ? Non, Claudine dit non. On peut se, vous voyez, ronchonner, on peut se murmurer à soi-même d'ailleurs. On peut se dire des choses, et bien des choses se disent dans les cœurs. On peut murmurer à notre voisin, y compris parfois même dans l'église. Mais le Seigneur ne va pas les mettre dehors, et le Seigneur ne met jamais dehors personne, parce qu'il veut que chacun soit au bénéfice de sa parole, afin que chacun ait la possibilité de changer, d'être impacté par sa parole. Les publicains, qu'on appelait aussi des péagers ou des collecteurs d'impôts, sous l'Empire romain, on en a déjà parlé, mais ils percevaient les impôts, les droits de péage sur les marchandises qui étaient transportées d'un territoire à un autre. Et ils avaient coutume de s'enrichir sur le dos des contribuables, en exigeant d'eux une somme qui était supérieure à celle qu'ils versaient au trésor public. Et c'est pour ça qu'ils étaient considérés souvent comme des voleurs. Et d'ailleurs, les publicains qui étaient juifs étaient exclus de la société de leurs compatriotes, finalement. Et ces gens-là sont associés, cette catégorie de personnes est associée aux gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie, français courant, la Bible de français courant nous dit, ce sont les gens de mauvaise réputation. Ou les gens sans foi ni loi. On pourrait aussi dire que ce sont des truands, des vauriens, des gens malfamés. Un ancien de nos présidents pourrait rajouter que ce sont des racailles. D'autres diront que ce sont des canailles. En tous les cas, le texte nous parle tout de même de gens de mauvaise vie. Et autant, publicain c'était un métier, hein, et le fait d'être publicain n'était pas mauvais en soi. Le problème c'est que la grande majorité utilisait ce pouvoir pour extorquer les gens. Et c'est ça que le Seigneur va condamner. Et c'est aussi pour ça que très souvent, ils étaient considérés comme et associés aux gens de mauvaise vie, d'une manière générale. Mais même ces gens-là, le Seigneur va les appeler à changer parce que Lévi, Matthieu, était un publicain. Mais il a quitté son mode de vie pour suivre Jésus. Donc c'est possible. Et c'est encore une invitation à quelqu'un, peut-être qui a un certain mode de vie, qui sait qu'il n'est pas bien. Peut-être qu'il est couvert par une certaine respectabilité, parce que les publicains, quelque part, ils avaient la respectabilité romaine, quelque part. Mais il sait qu'il truande, il sait qu'il fait des choses qui sont mauvaises. C'est possible de changer, mais il faut que tu abandonnes ton kiosque, il faut que tu abandonnes ton bureau de trafic et que tu viennes à Jésus. Autrement, il n'y aura pas possibilité de salut. Ne cherche pas à faire venir Jésus dans ta petite cabane, dans ton lieu de trafic, parce que le Seigneur n'y viendra pas. Mais il t'appelle quand même à le suivre. Et puis, on a vu donc À ma droite et à ma gauche, qui est-ce qu'il y a ? Il y a les pharisiens et les scribes. Qui étaient ces personnages ? Les pharisiens appartenaient à un courant religieux juif traditionnel qui enseignait à se conformer à une observance rigoureuse de la loi de Moïse. Paul était pharisien. C'est, on n'a rien contre les pharisiens. Hein. Vous allez me dire, oui, mais Paul, il persécutait les chrétiens, et etc. Oui, Paul persécutait les chrétiens. Mais pour autant, tous les pharisiens ne le faisaient pas, même si beaucoup le faisaient. Un autre exemple d'un pharisien, Nicodème. Nicodème était pharisien. Et c'est à lui que Jésus aura cette, c'est avec lui qu'il aura cette conversation tellement intéressante dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Ce Nicodème, à propos de la nouvelle naissance, c'est extraordinaire, c'est à lui qu'il révèle ça. Ce texte est tellement précieux, tellement merveilleux. Jésus dira, c'est vrai, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu l'as révélé aux enfants. Et cet homme est venu avec simplicité de cœur. Il a voulu avoir un entretien personnel avec Jésus. Il ne le connaissait pas bien, mais il avait envie de mieux le connaître. Et Jésus ne va pas le repousser parce qu'il est pharisien. Le Seigneur, d'ailleurs, ne repousse pas les gens. Il n'y a aucune gloire à être une personne de mauvaise vie. Le Seigneur n'a jamais, même s'il était ami des publics, ami des gens de mauvaise vie, des pécheurs, c'est-à-dire qu'il les laissait venir à lui, c'est dans ce sens-là. Mais il n'allait pas s'enivrer avec eux. Il n'allait pas voler avec eux, il n'aimait pas leurs pratiques, il haïssait leurs pratiques. C'est aussi pour ça qu'il allait mourir pour eux. Donc il n'y a aucune, dans la Bible et dans les évangiles, aucune éloge à ce qui est mauvais. Et le Seigneur accueille tous les hommes, mais y compris ceux qui sont dans des mauvaises, qui ont des mauvaises vies, à la différence des religieux qui, eux, les rejetaient parce qu'ils murmuraient, ils critiquaient. Ils disaient, mais non, ces gens sont mauvais. Il n'y a pas de salut pour eux, nous on est bien. Mais il n'y a aucune éloge à ce qui est mauvais. De la même manière que il n'y a pas de problème à avoir des principes moraux. Hein. C'est une bonne chose. Hein. On n'a pas à se cacher, y compris dans les églises, si on a eu une bonne éducation. Hein. Il n'y a pas à se cacher si on a eu une éducation religieuse avec des valeurs morales. C'est une bonne chose, c'est un bon socle, c'est quelque chose de bien. Et Jésus aime aussi les gens qui ont eu des valeurs, qui ont des valeurs morales. Il n'aime pas que les gens qui sont complètement dans la débauche et autres, il aime tous les hommes. Et faisons attention de ne pas distinguer nous non plus. Parce que ce serait une erreur. Le Seigneur est ami des pauvres, il aime les pauvres, il aime les riches pareil. Hein. Parce qu'il aime les âmes, tout simplement. Nicodème est celui également qui prendra la défense de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 51. Lorsque la cohorte du Sanhédrin dont il faisait partie voudra condamner Jésus. Sans le juger, il dira notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? Cet homme est droit. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est venu au pied de Jésus, avec Jésus, pour avoir une discussion avec lui, pour l'entendre. Et parce qu'il l'a entendu, il a retenu. Ne t'éloigne pas forcément des gens qui sont religieux, quels qu'ils soient. Pas parce que quelqu'un est convaincu dans l'islam, pas parce que quelqu'un est convaincu dans le catholicisme romain ou dans autre, que pour autant cette personne elle est mauvaise et qu'elle ne recevra pas Dieu. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Elle a aussi besoin d'entendre l'évangile, elle a aussi le droit d'entendre l'évangile de la même manière. Quel que soit son âge, même si une personne âgée qui est là, qui va tous les jours à la messe, ou qu'importe. Si elle le fait, c'est que probablement, et si elle continue, c'est qu'il y a quelque chose en elle qui aspire à connaître, peut-être ne connaît-elle pas réellement comme il faut, comme Nicodème. Mais heureusement que Jésus l'a accueilli. Et qu'il lui a pas dit, mais toi, tu es un pharisien, tu es un sale religieux. Jésus, il aime que les gens qui sont dans la rue, qui arrivent, qui ont des mauvaises vies. Non, il les aime aussi, mais il aime tous les hommes. Et je voudrais te dire ça aussi. t'as pas à te sentir décalé parce que t'as pas de problème, t'as pas vécu, t'as pas eu une vie complètement détraquée. Tant mieux pour toi. Et puis c'est lui également qui va payer de son propre argent pour la sépulture de Jésus avec Joseph d'Arimathée. Eh oui, il a été précieux, cet homme. Et je crois qu'aussi dans l'Église, chacun vient avec ce qu'il a et qui est précieux. Ne dis pas, mais non, mais moi je suis. C'est pas parce qu'il y a tel ou tel courant. Non, dans la vision de lui, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Il n'y a que des hommes et des femmes qui sont perdus, que Dieu a rachetés. C'est tout. Les scribes, qui étaient-ils ? Eux, ils étaient versés dans les Écritures. Ils étaient capables de les interpréter, de les enseigner. On les appelait aussi des docteurs de la loi. C'était aussi des copistes chargés de recopier les textes sacrés les plus fidèlement possibles, le plus fidèlement possible, à la lettre et au trait même. Et on en a un qui est célèbre, c'est Esdras. Esdras était scribe. On va dire que scribes et pharisiens représentaient l'élite religieuse juive, la crème des crèmes, le corps enseignant, les garants de la plus pure orthodoxie religieuse juive. Mais c'est aussi avec eux que Jésus a eu le plus souvent maille à partir. C'est avec eux qu'il a eu les plus grands problèmes. Parce que les pécheurs qui voulaient... Ça ne veut pas dire que tous les pécheurs venaient à Jésus, hein. Tous les gens de mauvaise vie venaient à Jésus, hein. Beaucoup venaient l'écouter, ils étaient attirés parce que voilà, il leur disait la vérité, ils sentaient un amour que les autres n'avaient pas. Mais simplement, eux, quand ça ne les intéressait pas, ils partaient, c'est tout, hein. Ils disaient, bah, lui, ça ne m'intéresse pas, hein. Par contre, les religieux juifs, eux, ça les dérangeait au plus profond et Jésus a eu beaucoup de mal avec eux. D'ailleurs, c'est eux qui vont fomenter son assassinat. C'est eux qui vont fomenter son assassinat. Ce sont eux, pardon. Vous avez toute une diatribe dans Matthieu 23, à partir du verset 1er, où Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, va dire « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Faites donc et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants, les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer des doigts. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Alors c'est sûr que Jésus, il disait la vérité. Et il s'est fait beaucoup d'ennemis au milieu des religieux. Et il poursuit, versets 12 à 38, plusieurs choses. « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» Et à chaque fois, il va dire « hypocrite. » « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent rentrer. Vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth, du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. » La justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Et poursuit, poursuit. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. C'est-à-dire que l'important, c'est les apparences. Il faut que ce soit bien extérieurement, que tout roule, que tout aille bien, même si c'est pourri à l'intérieur. Il leur dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Il leur dira hypocrite parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Vous de même en dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, le tableau est dressé. Parce que c'est à eux que Jésus s'adresse. Et je crois que cette parole, elle va au-delà des générations, elle va jusqu'à nous. Nous ne sommes pas forcément des gens de mauvaise vie, tels qu'on peut l'entendre. Nous ne sommes pas forcément des voleurs ou des gens qui utilisent des positions pour tromper, y compris politiques et autres, pour s'en mettre plein les poches. Vous n'êtes pas forcément de la secte des pharisiens. Mais si cet enseignement vous est donné, c'est que pour nous aussi c'est utile. Parce qu'on peut avoir certains états d'esprit qui ressemblent à ces gens-là et que Jésus va condamner. Bien que extérieurement tout semble bien et que nous faisons tout pour que tout semble bien extérieurement. Ensuite, verset 4, il explique maintenant la parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert ? Moi, ce qui me surprend, alors qu'il aille chercher la brebis perdue, ça j'entends. Mais il laisse les autres, les 99 autres, dans le désert. Alors bien sûr que c'est une parabole. Donc il faut essayer de comprendre le sens spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ça ? Et quand on a vu le tableau, finalement, vous avez compris, les 99 autres, à quoi ça ressemble ? Qui sont-ils ? Ce sont les Juifs et principalement les religieux, finalement. Jésus est venu pour son peuple, il est venu pour les Juifs. Mais pour la plupart, ils l'ont rejeté, ils l'ont repoussé. Ils n'ont pas voulu de lui, ils n'ont pas voulu du Messie, du Sauveur. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de toi, nous ne voulons pas de toi, nous avons notre religion, tu viens nous déranger. Nous ne croyons pas que tu es le Fils de Dieu. Nous refusons de nous repentir, nous n'avons pas besoin, notre cœur est bon, nous avons pour père Abraham, nous sommes sauvés. Et ça représente ces 99 autres qu'il laisse dans le désert. Et le désert, ça représente quoi ? Matthieu 23, justement au verset 37-38, il le dira à ces Juifs, « Combien de fois, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu vous rassembler ?» Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais il dira, vous ne l'avez pas voulu. Jésus les aimait autant, autant. Il a voulu les rassembler, mais comme il ne voulait pas, alors il les a laissés. Et il les a laissés dans un lieu désert. Et il ajoutera justement, voici verset 38, votre maison vous sera laissée déserte. Et c'est ce sens-là, quand il leur dit, il les laisse dans un lieu désert. C'est le désert de la religion, des rites et des pratiques sans vie. De la bonne conscience, de la propre justice. Et Paul reprendra ces choses-là dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5, en disant à propos du peuple d'Israël, il a dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. » Verset 5, il ajoute, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Une génération entière dans le désert est morte. Ils ne devaient y rester que quelques mois. Ils y ont passé 40 années et ils sont morts. Alors que ça n'était pas le projet de Dieu. Et Jésus, quand il est venu aussi pour sauver son peuple. Comme il est venu pour sauver tous les hommes, il est venu pour te sauver. Mais si tu veux rester dans ta religion, dans tes principes religieux, et que tu ne veux pas sortir vers Jésus, tu ne veux pas aller à lui te repentir réellement de tes péchés et l'accepter comme ton sauveur personnel, alors tu vas rester dans le désert de tes sécurités, de tes assurances, mais c'est un désert. Et dans un désert, il n'y a rien, il n'y a pas de vie, ou si peu de vie. Et le problème, c'est que dans un désert, on y meurt. Peut-être que tu n'es pas dérangé. Tu crois que tu n'es pas dérangé en tous les cas. Mais il y a beaucoup de dangers aussi dans le désert. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Ça n'est pas un lieu de vie. Ça devrait être un lieu de passage, à moins d'être nomade. Hébreux 3:19, où il dira, l'auteur aux Hébreux, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et finalement, ils n'ont pas pu rentrer dans le salut de Dieu en Jésus parce qu'ils ne croyaient pas pleinement en lui. Ils ne voulaient pas. Certains voulaient peut-être bien entendre Jésus, voulaient bien un Jésus, mais dans le cadre de leur religion, ils ne voulaient pas sortir. Et Jésus nous invitera toujours à venir à lui, « Venez à moi !» Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce désert, ça nous parle c'est vrai, du désert de l'absence de la communion avec Dieu. C'est le désert de l'absence de l'intimité avec Dieu, de sa chaleur, de sa présence. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible. Et la religion n'amène rien. Ce sont simplement des commandements. Ne fais pas, il faut pas, il faut faire, il faut faire, il faut pas faire. Et c'est quelque chose qui est sec. La religion, y compris la religion évangélique, ne peut pas te sauver, ne peut pas t'amener à la vie. C'est Jésus qui est la vie. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie. La vie se trouve en Jésus, seul. Ne raisonne pas en termes de religion, mais raisonne en termes de sauveur. Tu es perdu et il y a un sauveur qui est venu pour te sauver. Mais y compris dans ta religion. La bonne nouvelle, c'est que quand on est dans un désert, David va l'expérimenter. Peut-être que tu es dans le désert de ta religion, de tes raisonnements, et tu n'arrives pas à en sortir. Mais tu peux faire cette prière, psaume 63, verset 1 de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. » C'est le bon commencement quand tu commences à soupirer après Dieu. Et je crois que si l'un de ces 99 avait commencé à soupirer, le Seigneur serait venu immédiatement. Immédiatement. La suite du verset 4 nous dit, il a laissé 99 autres dans le désert, et puis la suite pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il en a quand même 99. C'est quand même pas mal. Si tu as 100 hamsters et qu'il y en a un qui s'est égaré, bon, tu peux chercher un peu autour, mais est-ce que tu vas remuer ciel et terre jusqu'à ce que tu aies retrouvé le centième hamster? Bien sûr, tu vas chercher, d'une bonne conscience quand même. Où est-ce qu'elle est, cette petite bête? Bon, sauf si c'est dans la maison, effectivement, là, tu vas chercher. Parce que tu vas te dire, s'il ronge mes fils et il fait des petites crottes partout, là, oui, tu vas chercher. Mais dehors, il est parti dans la nature, on va le laisser. Écoute, c'est comme ça. Comment se fait-il qu'ils partent à la recherche de cette brebis qui est perdue? C'est le proverbe, hein? Une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas dans la Bible, ça. Hein? C'est un principe. Hein? Bon, bah écoute, si tu as 99 portables, dis-moi, si tu as 100 portables, d'accord? Tu vois, hein, 100 portables, tu as toutes les données sur les... Maintenant, c'est vrai qu'il y a des activités, des programmes, des vidéos que tu peux avoir sur l'un ou sur l'autre. Mais tu as tous tes numéros, tous tes contacts sur chacun. Sur les 100 que tu as, tu en perds un. Bon, tu vas le chercher. Quand même. Surtout si c'est papa qui l'a acheté, c'est quand même mieux que tu... c'est quand même important. Mais est-ce que, pour autant, tu vas le chercher jusqu'à ce que tu l'aies trouvé? Ben non, tu as du bon sens. Tu dis, il m'en reste quand même 99. C'est pas mal, quand même. Et lui, il va la chercher. Puis c'est qu'un animal. Puis, parenthèse, la brebis, c'est quand même pas un animal. C'est pas parmi les animaux les plus intelligents qui soient, quand même. Hein. Enfin, il faut quand même aussi. Vous voyez, c'est pas un chien, c'est même pas un chat, c'est une brebis, quoi. Et bien lui, il y va. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? À ton avis, pourquoi il fait ça? Dis-moi. Parce qu'il les aime. Voilà. Et parce qu'il l'aime, elle est perdue, mais il l'aime tout simplement. Et l'amour va au-delà des raisonnements. L'amour va au-delà même des lois, des commandements. Nous utilisons la loi, y compris la loi de Dieu, quand nous n'aimons pas. Nous nous appuyons sur la loi et les commandements de Dieu quand nous n'aimons pas. Mais l'amour est au-dessus de la loi. C'est même l'accomplissement parfait de la loi. Quand vous aimez, on n'a pas besoin de vous dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, si vous aimez. C'est pour ça qu'il va à la recherche de la brebis perdue. On ne sait pas pourquoi elle s'est perdue. Est-ce qu'elle en a fait qu'à sa tête? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'on n'en sait rien? Est-ce qu'elle s'est entêtée? On n'en sait rien. Peut-être humainement parlant, elle aurait dit, bah, écoute, elle l'a bien cherchée. Hein. Maintenant qu'elle se débrouille. Mais le problème, entre guillemets, c'est qu'il l'aime. Le problème, c'est qu'il l'aime. Alors, il n'y a pas simplement à la chercher pour une bonne conscience, comme nous pouvons le faire, nous, parfois. Ah ben, j'ai fait ça. Bon, mais après, voilà. Je suis allé voir telle personne. Elle n'a pas voulu. Ah ben voilà, c'est bien, j'ai fait ce que j'avais. J'ai fait mon devoir religieux. Mais pour faire notre devoir religieux, nous n'avons pas besoin d'amour. Les pharisiens le faisaient très bien, les sadducéens faisaient très bien. Mais l'amour va au-delà. L'amour, il va à la recherche parce qu'il aime. Il va à la recherche jusqu'à ce qu'il trouve. Parce que c'est cette qualité d'amour de 1 Corinthiens 13, verset 7, qui dit que l'amour, il espère tout, il croit tout. Il supporte tout parce qu'il aime. Il ne met pas de limite, il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Et ça, ça nous parle de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Pas parce que tu le mérites, parce que bien souvent tu ne le mérites pas, mais parce que Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il te cherche. La Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons la possibilité de l'aimer et de l'aimer, de répondre à son amour parce que lui nous a aimés le premier. Nous répondons simplement à son amour. Le bébé grandissant répond à l'amour de la maman parce qu'il apprend à aimer la maman. Il se voit tellement aimé de la maman qu'à un moment donné, eh bien, il répond à cet amour. Et c'est comme ça qu'un bébé, vous le prenez dans les bras, Alors c'est une image, mais presque comme un paquet. Alors vivant, mais bon, c'est tout. Hein. Souvent ça gigote, ou ça, s'il est fatigué, il pose sa tête. On est très content et c'est fantastique. Mais vous le prenez point barre, jusqu'au moment où votre bébé vous prend aussi. Vous vous souvenez ça, les parents? À un moment donné, c'est extraordinaire. Quand votre bébé commence à mettre ses toutes petites mains autour de votre cou. C'est extraordinaire, ça. Vous dites, mais ça réagit. Ça réagit. Ça réagit en amour, alléluia. Parce qu'il se voit tellement faire, il reçoit tellement de bisous, il est tellement entouré, qu'à un moment donné, ben, il donne. Il a envie de faire, tout simplement. Il n'est pas obligé, vous ne pouvez pas commander. D'ailleurs, vous ne pouvez pas commander un bébé. Hein. Ah, c'est lui qui vous commande. Hein. C'est lui qui vous commande. Ben Dieu ne cherche pas à nous commander, nous imposer son amour. Simplement, il nous aime. Et il continuera toujours de nous aimer. Il attend simplement que nous répondions à cet amour. C'est pour ça qu'il cherche la brûlure, jusqu'à ce qu'il la trouve. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu es là, tu dis non, je ne changerai jamais. Je ne pourrai pas changer. Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai, je ne pourrai pas. Ou je suis allé trop loin. J'ai fait trop de mal. C'est possible. Parce que l'amour de Dieu va au-delà de toutes tes limites, toutes tes barrières. C'est extraordinaire, ça. Ne résiste pas à son amour. Verset 5, lorsqu'il l'a retrouvée. Et je me pose la question, comment est-ce qu'il a fait pour la retrouver? Dis-moi. Une brebis qui est partie très loin, dans la nuit peut-être, t'as des buissons, t'as toutes sortes de trucs. Comment il fait pour la retrouver? Est-ce qu'il y a un GPS, une balise Il peut l'appeler, oui, mais il la connaît. Mais s'il fait nuit, si elle est très loin, il y a plein de trucs. C'est pas comme si elle était là à côté, il la reconnaît du coup. Voilà, c'est exactement ça. La brebis, elle pleure, elle fait quoi la brebis? Elle belle. Un son magnifique d'ailleurs, hein. Je pense qu'on pourrait faire un recrutement pour les choristes. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait magnifique, ça, hein? Une brebis, là. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Hein, on va attendre un petit peu. Eh oui, elle belle. À partir du moment où il entend le son de sa voix, c'est le son de sa voix qui va l'amener à aller vers la brebis. Si elle ne belle pas, il ne va pas pouvoir la retrouver. Le bêlement de la brebis, ça représente la prière de l'homme et de la femme, du jeune homme, de l'enfant, qui se met à du vieillard, qui se met à se tourner vers Dieu. Et comme dit Bruno, il connaît sa brebis, il connaît la voix de sa brebis, comme la brebis reconnaît la voix du berger. Et même s'il est aussi imperceptible, il va la reconnaître, il va reconnaître ce son dans la nuit. Si tu te tournes ce matin vers le Seigneur, dans ton cœur, tu dis, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de changer, j'ai envie de quitter cette position, j'ai envie de quitter cette prison dans laquelle je suis. Je ne veux pas rester avec le 99, j'en ai marre de cette aridité, de cette sécheresse. J'en ai marre de connaître des choses sur Dieu, mais de ne pas le vivre, de ne pas vivre son amour. Si c'est ta prière dans ton cœur, alors le Seigneur l'entend et il est en marche vers toi. Il est en marche vers toi, quel que soit le cri de ton cœur, aussi imperceptible soit-il. Quand il l'a trouvé, il lui donne une bonne raclée. C'est ça, non ? C'est pas ça, non ? Ah, tu t'es perdu, c'est ta faute. Tu vas le payer. Je vais te raser. Je vais te prendre toute la laine. Et ensuite, je vais te faire cuire. Non. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. C'est merveilleux, ça. Il la met avec joie sur ses épaules. Il est heureux de l'avoir retrouvée. C'est l'une des plus grande, sinon peut-être la plus grande source de joie qui peut être dans le cœur de Dieu. Ce qui peut procurer le plus de joie, ce n'est pas ce que tu vas faire, mais c'est le fait que tu viennes à lui et que tu sois à lui. C'est la plus grande source de joie. C'est ce que tu peux procurer, c'est le plus grand plaisir que tu peux procurer à Dieu. C'est toi qui viens à lui, toi qui restes à lui, toi qui viens et qui reviens à lui, qui t'offre à lui. C'est la plus grande des joies que tu peux faire à Dieu. Il la retrouve et il la prend. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il la met sur ses épaules ? Elle est fatiguée, oui. Certainement. Elle n'a plus de force. Tu dis ? Alors, elle est retrouvée, là. Il pourrait la prendre, prendre une laisse et puis... Tu vois, ou la faire marcher à côté, tu dis ? Pour la consoler, ça c'est aussi une chose intéressante. Deux éléments, parce qu'elle est fatiguée, et je crois parce qu'elle est trop fatiguée, parce qu'elle est épuisée. Parce qu'elle est épuisée et qu'elle ne peut plus avancer. Et malheureusement, c'est aussi le caractère de la brebis, et le Seigneur nous identifie à des brebis, c'est qu'il faut souvent que nous allions au bout du bout. Pour commencer à nous tourner vers le Seigneur, c'est pas vrai, on essaie, on fait tout par nous-mêmes. Et c'est quand on ne peut plus, quand on est au bout, qu'on commence à « bé, bé ». J'ai tout fait, je n'ai pas réussi, Seigneur, je n'ai pas réussi. Aide-moi dans ma situation. Et à ce moment-là, nous devenons, ce sont les plus belles prières. Hein. Là, il n'y a plus tous les trucs. Là, hein. On a retiré le papier cadeau, on a retiré le ruban, le carton. On va directement à l'essentiel. Parce que tout ça, le Seigneur... Il attend de voir l'essentiel. Et là, c'est l'essentiel. Et là, il va directement. Quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Et il le délivre. Amen. C'est direct avec Dieu. Elle n'a plus la force. Peut-être que tu es dans cette situation. Ne reste pas bloqué. Ne reste pas figé dans ta position. Mais demande au Seigneur son aide. Appelle-le. Et sache qu'il va venir. Il va venir. Lui-même, il va venir. Sous quelle forme, ne me le demande pas. Il est Dieu. Mais il est un Dieu, il est un Dieu qui t'aime. Il veut être ton berger. Il la met sur ses épaules pour la porter. Mais aussi pourquoi il la met sur ses épaules. Vous vous souvenez, le premier verset qu'on avait vu, pardon. Il est dit que les publicains et les gens de mauvaise vie venaient s'approcher de lui pour, verset 1, l'entendre. Et ayant sa brebis, au niveau sur ses épaules, il la porte parce qu'elle est fatiguée, mais en même temps, il l'entend. Il l'entend. Enfin, il va l'entendre. Enfin, elle va l'écouter, elle va l'entendre. Vous direz, dans cette situation, on n'a plus le choix. Elle est épuisée, mais enfin, elle va pouvoir reprendre force. Enfin, elle va pouvoir reprendre force. Nous reprenons force quand nous sommes à l'écoute du Seigneur, quand nous l'écoutons. Nous n'avons pas besoin de lui crier parce que nous sommes tellement loin et lui n'a pas besoin de nous crier ou autre. Mais nous sommes près de lui et nous entendons sa voix et sa voix nous fait du bien. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures ? Tu as besoin de venir tout près du Seigneur, de te mettre à ses genoux, de te mettre à ses pieds, de te mettre à côté de lui, de te mettre la tête sur sa poitrine, comme Jean, pour écouter sa voix. Le laisser te rassurer, le laisser te consoler, comme disait Thieu, le laisser te fortifier, t'encourager, te montrer le chemin. Et je voudrais dire à quelqu'un qui est épuisé, qui est au bout du rouleau, et ça c'est une parole pour quelqu'un ou des personnes de manière très particulière, laisse le Seigneur te porter. Arrête de, tu n'as plus la force. Laisse le Seigneur te porter sur son épaule. Laisse le Seigneur te porter sur ses épaules. Il a porté tes péchés, il a porté tes maladies, il a tout porté à la croix. Laisse-le maintenant te porter. Et puis, effectivement, là, tout près, il peut également la rassurer par ce contact. Il peut la caresser. Elle peut être rassurée. Elle entend la voix du bon berger. Elle a ce contact. Il peut en même temps regarder. Là, il explore. Là où la brebis peut être blessée, il fait une exploration. Tu as besoin de ce contact avec le Seigneur Jésus afin qu'il puisse guérir là où ça fait mal. Si tu es à distance du Seigneur, comment veux-tu que le Seigneur te guérisse? Ça peut être des années, tu souffres toujours des mêmes choses. Il y a toujours ces mêmes problèmes dans ta vie, dans ton cœur. Parce que tu n'as pas ce contact direct, proche avec le Seigneur, cette proximité avec le Seigneur. Ce qui fait qu'il ne peut pas te guérir, il ne peut pas inspecter ton mal. Parce que tu pars tout de suite, tu es tout de suite parti. Laisse le Seigneur te guérir des choses les plus profondes, des blessures les plus graves. Lorsqu'il la retrouve, il la met sur ses épaules. Et ensuite, de retour à la maison, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il est dit de retour à la maison. Il appelle ses amis, ses voisins. Il dit, réjouissez-vous avec moi, parce que ma brebis était perdue, elle est retrouvée. Moi, je note qu'il revient à la maison. Il a sa brebis sur les épaules. Moi, je ne vois pas le berger aller prendre la brebis et puis la remettre dans l'enclos du désert. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, parce que c'est sec, elle va mourir de nouveau. Et qui nous dit que c'est peut-être pour ça qu'elle est partie? Ça, c'est une interprétation. Il ne va pas la remettre là-dedans. Parce que c'est sec. Il va l'amener dans sa maison, avec ses amis. Et sa maison, c'est quoi? C'est qui? Hébreux 3, verset 6, sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous. Là où le Seigneur prend plaisir au milieu de son peuple, là où son nom est invoqué, là où des hommes et des femmes sont nés de nouveau. Et c'est là que le Seigneur prend plaisir. Et c'est là qu'il la ramène. Et c'est le processus, le Seigneur veut te ramener dans cette communion fraternelle authentique. Il veut te faire goûter à la chaleur de la maison. Et nous étions étrangers, nous étions des étrangers. Nous étions des gens du dehors, mais le Seigneur veut nous ramener à des gens du dedans, des gens de l'intimité, expérimenter la chaleur de l'amour de Dieu, de la protection de Dieu, de la consolation de Dieu, de la communion fraternelle authentique. C'est ça que Dieu veut nous donner de vivre pleinement, c'est ça le programme de Dieu. Et c'est ça qui procure le plus de joie à Dieu, pas les gens qui ont leur certitude religieuse, mais qui sont en dehors de Christ. Le Seigneur les aime, mais il va les laisser. Il va aller chercher la brebis qui est perdue. Peut-être que tu es perdu, tu es comme cette brebis, mais le Seigneur veut te ramener. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu es le bon berger, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur, parce que c'est toi qui as donné ta vie pour nous, qui as payé le prix. Nous ne pouvions pas payer le prix. Tu n'as pas simplement payé le prix pour des gens que tu aimais, nous pourrions éventuellement le faire pour ceux que nous aimons. Mais nous serions incapables, nous ne le voudrions même pas le faire pour ceux que nous n'aimons pas, que nous ne connaissons pas. Et toi, tu l'as fait. Encore moins, nous voudrions le faire pour des gens qui sont mauvais. Et toi, tu l'as fait. Tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour nous, pour des gens qui ne t'aimaient pas du tout, des gens qui, par leur mode de vie, te crucifiaient, te méprisaient, des gens qui disaient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Mais Seigneur, tu l'as fait par amour. Je te prie ce matin de passer dans les cœurs et dans les vies, toi-même de te révéler, Seigneur, comme le bon berger, Seigneur. Alléluia, ouvre les cœurs à ta présence, Seigneur Jésus. que des âmes puissent se tourner vers toi, te redonner leur vie, te donner leur cœur, se laisser porter sur tes épaules. Alléluia, merci parce que tu es aussi le Dieu de la joie. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu de la joie, de la réjouissance. Et le Seigneur veut réjouir ton cœur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen.